Chercheurs en ville, c'est une heure chaque mois en compagnie de chercheurs bretons. Notre mission, mettre en lumière le travail de recherche, particulièrement en sciences sociales, et dont les résultats semblent parfois obscurs pour des oreilles non averties. En ce mois de mai, on vous propose une émission un peu spéciale, alors que les étudiants de l'enseignement supérieur viennent de terminer leur année, à l'image des deux étudiantes en quatrième année à l'Institut d'études politiques Sciences Po Rennes qu'on reçoit aujourd'hui. Elles viennent de boucler leur mémoire de 80 pages à l'issue d'un séminaire mené par Christian Lebar, que vous avez l'habitude d'entendre sur Canal B. Et mémoire, si vous n'êtes pas passé par cet exercice, c'est bien plus qu'une dissertation. Il s'agit d'un travail original, placé sous le signe de la recherche scientifique, mais qui s'appuie sur des sources nouvelles pour montrer sa capacité à penser par soi-même. Aujourd'hui, on vous donne à entendre le travail de recherche et d'écriture de deux apprenties chercheuses qui ont pour point commun d'avoir un sujet dans le champ du féminisme. Bienvenue dans Chercheurs en ville. Aujourd'hui dans Chercheurs en ville, émission consacrée à la recherche universitaire sur Canal B, on reçoit deux étudiantes en quatrième année à Sciences Po Rennes, Alice De Rosa et Emma Baudouin. Bonjour.
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 Vous venez de boucler votre mémoire dans le cadre de vos études. Alice, vous avez travaillé sur le regret maternel. Emma, vous avez travaillé sur les femmes dans le militantisme d'extrême gauche. Pendant une heure, vous répondrez aux questions de Colette David. Bonjour Colette.
Bonjour.
Colette, vous êtes journaliste à Ouest-France à la retraite et juste à côté de vous, il y a Christian Lebar pour la Maison des sciences de l'homme en Bretagne et professeur de sciences politiques. Bonjour Christian.
Bonjour.
Colette, je vous laisse la parole.
Alice de Rosa, vous avez choisi de travailler sur le regret maternel, un appel à redéfinir la maternité. Pourquoi vous avez choisi ce sujet ?
Alors déjà donc le regret maternel donc qui est donc le choix que donc on fait des mères de devenir mère et qui ont en fait ensuite regretté ce rôle et en fait j'ai décidé de je pense choisir un sujet qui était donc encore très tabou pour en fait donner la parole justement à ces mères et essayer de comprendre en fait ce regret et essayer de comprendre aussi comment du coup en l'analysant on pourrait de manière générale comprendre comment redéfinir la maternité dans la globalité.
Emma Baudouin, votre thème c'est « Femmes dans le militantisme d'extrême gauche face à la domination masculine, imaginez une culture militante féministe ». Pareil, pourquoi vous avez choisi ce sujet ?
Moi typiquement je voulais étudier les rapports de genre du coup dans le militantisme d'extrême gauche. Donc le genre du coup ça se tient dans une binarité donc féminin et masculin et c'est l'idée que c'est la façon dont on est construit socialement mais qui se différencie du coup de notre sexe biologique. Et du coup, l'idée, c'était d'étudier comment des rapports de domination entre les genres vont se rejouer. Et moi, c'était surtout parce que moi-même, je suis militante du coup dans l'extrême gauche et féministe. Et du coup, c'était un sujet qui me ressemblait.
C'était une question, une réponse que vous avez quasi devancée, parce que compte tenu de vos thèmes de recherche, évidemment. Est-ce que l'une et l'autre, vous êtes engagée, militante dans des associations, des mouvements ?
Oui, du coup, évidemment.
Emma.
On est à nous toutes 35, toutes les deux.
Oui, je pense que. Enfin, moi, c'est surtout depuis cette année que je pense j'ai commencé le militantisme. Et je pense que, d'une part, le mémoire m'a aussi un petit peu ouvert les yeux sur beaucoup de choses et m'a donné envie de continuer à militer encore plus, finalement.
Christian Lebar.
Oui, alors peut-être pour rappeler pour les gens qui nous écoutent que tout ça s'inscrit dans le cadre d'un séminaire de sociologie, sciences politiques. Donc peut-être une question sur l'attention, sur ce que la recherche fait au militantisme et sur ce que le militantisme fait à la recherche. Alors il y a des convergences, mais il y a aussi éventuellement des tensions. Donc est-ce qu'il y a des moments où, alors même que du fait de vos ancrages militants, vous aviez accès à un certain nombre de ressources, mais il y a eu un moment où peut-être aussi cette inscription militante, elle a été un obstacle. Alors comment vous l'avez vécu ça ?
Moi, c'était surtout au moment de l'écriture où des fois, je me disais que j'étais un peu en train d'écrire un tract. Mais après, notamment en parlant à Alice, j'essayais de me dire que non, c'était juste pas, bah, voilà, enfin dans les faits, je me disais, bah, la sociologie, on lit des choses en rapport de domination, et moi je donne juste la parole à celle qui veut que ces rapports de domination n'existent plus. Et c'est une position en soi, mais après j'avais un peu envie aussi de voir mon mémoire comme un truc militant, du coup ça m'a pas gênée.
On y reviendra quand on abordera de manière plus détaillée justement l'écriture. Alice.
Oui, moi je pense que quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, je pensais pas du tout justement écrire quelque chose de militant, c'était plus comprendre le regret maternel et en fait donner la parole à ces femmes. Et en fait au fur et à mesure de l'écriture, je me suis rendu compte qu'en construisant un petit peu mon plan, que finalement j'avais envie aussi de donner des solutions, j'avais envie de le rendre finalement un peu militant. Même si le sujet de premier abord n'était pas, enfin, ne portait pas forcément à ça, et du coup, je pense que, ben, au fur et à mesure, ça s'est vraiment révélé, et j'étais vraiment contente du résultat et de me dire que ce que j'avais écrit, ça pouvait peut-être, ouais, bah, déjà libérer la parole et avoir ce côté militant aussi.
Il y a des hommes dans vos mémoires, je me rappelle plus.
Non.
Il faut dire que ça fonctionne par entretien.
Oui. Mais il n'y avait pas d'entretien avec des hommes dans le mien.
Pour quelle raison?
Au départ, je m'étais dit que je pourrais interroger à la fois des hommes et des femmes pour voir du coup les différences entre comment ils se sentent dans le militantisme et du coup analyser ça. Et après, en fait, je me suis dit à la fois parce que du coup les hommes voulaient pas trop répondre à mes questions et aussi parce que du coup je me suis dit que bah, ça pourrait être super intéressant aussi de donner la parole directement aux femmes et c'est ça qui a fait qu'au final mon mémoire il prend plus un parti de dire qu'il faut bah, imaginer une culture militante féministe, parce que c'est ce qu'elles m'ont dit, et je pense que si j'avais interrogé des hommes, ça aurait été moins là-dedans.
Et oui, moi, du coup, comme c'était vraiment sur le regret maternel et pas sur le regret paternel, et que j'avais vraiment envie de me focaliser sur ce que ressentaient ces femmes, parce que c'est déjà un sujet qui reste encore très tabou et très compliqué à en parler, et parce que je pense aussi qu'avec tout... On va dire, je pense que le féminisme n'a pas encore été assez penché sur le sujet de la maternité et que c'est pour ça que je voulais vraiment me focaliser sur cet aspect-là et comment encore aujourd'hui il y a tellement d'injonctions et de normes et de règles pour, en tant que femme, à devenir mère. Et du coup, c'était vraiment cet axe-là qui m'intéressait.
Vous dites que c'est particulièrement pour votre sujet sur le regret maternel un sujet tabou. Quand on se lance dans une aventure comme un mémoire de 80 pages, dont 60 pages de texte, 20 pages à peu près de bibliographie. Justement, puisque dans cette émission, pour une fois, on n'a pas affaire à des chercheurs ou chercheuses confirmés, mais là, on est dans les apprentissages, on est dans les débuts, dans les commencements. Comment, sur le plan théorique et intellectuel, vous vous êtes préparé, par exemple, vous, sur le regret maternel?
Oui, bah du coup, c'est vrai qu'il y a très peu d'ouvrages qui ont été vraiment écrits sur le sujet. Et en fait, j'ai commencé par écouter des podcasts qui vraiment en parlaient. Et sinon, en fait, j'ai trouvé une étude qui a été faite par une sociologue américaine, Orna Donat, qui s'appelle Le regret d'être mère, qui a été une étude faite sur des mères en Israël et qui est vraiment une étude très aboutie et très détaillée sur lesquelles je me suis beaucoup appuyée. Mais sinon, en dehors de cette étude vraiment purement sociologique, j'ai rien trouvé vraiment sur le sujet. Ce qui fait que j'ai dû un petit peu me raccrocher à d'autres apports théoriques, on va dire, plus classiques, qui ensuite m'ont permis de l'utiliser pour analyser leur discours et le regret en général. Mais c'est vrai que je pense que ça a peut-être un peu impacté mon mémoire, dans un sens où il aurait peut-être été plus riche si forcément il y avait eu déjà des choses décrites. Mais du coup, je pense que c'était aussi intéressant d'essayer d'écrire sur un sujet qui n'a pas encore forcément eu beaucoup de littérature sur ce sujet, quoi.
Emma, sur l'extrême gauche, j'imagine que vous n'aviez peut-être que l'embarras du choix.
Ouais, moi il y avait un peu de trop de choses qui avaient été écrites sur le sujet. Mais c'était intéressant aussi de faire le choix, d'essayer de trouver sur quoi j'allais me baser plus. Et du coup, la première partie typiquement où c'était plus un constat de la domination masculine dans le militantisme, bah, là il y avait vraiment l'embarras du choix. Après, la seconde partie, plus sur du coup les résistances et les résistances féministes et les résistances des femmes à cette domination, il y avait un peu moins d'écrits, mais il y en avait quand même beaucoup. Oui, je cherchais un peu partout là-dessus, mais je me suis beaucoup basée sur les entretiens dans cette partie-là.
Justement, comment vous avez déniché et ciblé les personnes que vous avez, donc les femmes, que vous avez enquêtées? Comment vous les avez trouvées?
Du coup, moi, c'est vrai que j'avais un petit peu peur de ces entretiens parce que, bah, encore une fois, ça reste un sujet difficile. Et également de ma position, du fait que je ne côtoie pas forcément de mères au quotidien, etc. Et du coup, en fait, c'est grâce à un compte Instagram qui est tenu par Astrid Hurodellini, qui s'appelle Le Regret Maternel, qui en fait est une plateforme où elle relaie énormément de témoignages, qui est suivie par plus de 20 000 personnes. Et en fait, je lui ai juste envoyé un message en lui demandant « Est-ce que tu peux relayer un appel à témoignage pour mon mémoire ?» Et ce qu'elle a fait, gentiment fait. Et du coup, j'avais également réalisé un questionnaire en ligne. Et du coup, en fait, via ce questionnaire, j'ai reçu plus de 148 réponses anonymes. Et de là aussi, grâce à l'appel à témoignage, j'ai reçu des mails de mamans qui étaient prêtes à me livrer leur témoignage. Du coup, j'ai réussi à faire 5 entretiens en tout.
On y reviendra sur les entretiens. Et vous, Emma, au moins pour cibler les personnes.
Pour cibler, moi, au départ, c'était un peu compliqué parce que je m'étais dit que j'allais faire vraiment dans l'extrême gauche plus... dite radicale, mais j'avais peu de connaissances en fait dans ces milieux-là, et du coup ça s'est fait, à la fois du coup mon militantisme s'est accru pendant l'année, et en plus du coup j'ai pu rencontrer de plus en plus de gens par mon mémoire, du coup il y a eu un peu un effet de, enfin les deux ont bien marché ensemble, et du coup je rencontrais de plus en plus de gens, mais du coup c'était plus les réseaux personnels, et j'ai vite compris que fallait juste se faire un peu connaître par les gens dans ce milieu-là pour qu'ils te fassent confiance et après pouvoir discuter, quoi.
Alors justement, moi ça m'intéresse beaucoup en tant qu'ancienne journaliste. Il y a toute cette phase préparatoire. Et puis tout d'un coup, on est soit par téléphone ou par Zoom ou en vrai devant les gens. Comment vous avez réalisé ces entretiens et comment très concrètement vous avez travaillé ça? Alors, vous prenez des notes, vous enregistrez, vous faites quoi? Et comment vous comportez?
Du coup, moi, sur les 5 entretiens, j'ai pu en faire qu'un seulement, vraiment dans un café avec la personne en face, ce que j'ai un petit peu regretté parce que je trouve que d'avoir la personne vraiment en face, et justement, c'est un entretien qui a duré plus de 2 heures, donc c'était vraiment super intéressant, alors que 3 autres entretiens, j'ai dû les réaliser par téléphone, donc là, vraiment, je trouve que c'est plus compliqué déjà de créer un lien de confiance pour ensuite poser tout un tas de questions et vraiment aussi pouvoir analyser, parce qu'il y a aussi toutes ces... dans des entretiens, vraiment analyser comment la personne répond, surtout sur des sujets assez très personnels et assez douloureux comme le regret, que j'ai pu justement analyser en vrai quand j'ai réalisé mon premier entretien. Donc je pense que ça a un petit peu pâti justement de mon analyse, peut-être des entretiens qui ont été faits ensuite, de ceux que j'ai réalisés par téléphone ou par Zoom, où c'était un peu plus compliqué de créer une dynamique vraiment où j'étais à l'aise et où aussi la personne était à l'aise en fait, en face.
Vous preniez des notes pendant ce temps-là, vous enregistriez?
J'ai tout enregistré, donc toujours demandé l'accord en fait avant, et elles ont toutes accepté que j'enregistre pour ensuite réécouter et retranscrire en fait, tout en prenant aussi des notes à côté. Si par exemple j'avais des idées qui me venaient sur des questions potentielles ou même des points assez importants que je trouvais, pourquoi pas. Donc ouais, j'ai pris des notes aussi à côté en même temps.
Et est-ce que vous avez rappelé les gens pour poser d'autres questions ou demander confirmation de détails, de quoi que ce soit?
C'est arrivé une fois, ouais. La première personne, j'ai dû rappeler parce que j'avais... Enfin, du coup, c'est mon premier entretien et j'avais oublié un aspect important que je voulais évoquer dans mon mémoire, qui est notamment en parler aux enfants ou non. Et du coup, j'avais rappelé et on avait été au téléphone et ça avait permis de du coup renourrir. Et voilà.
Emma, vous, comment vous avez travaillé?
Moi, j'ai travaillé de la même façon. Et ce qui m'avait surtout marqué dans le premier entretien, c'est comment, au final, fin, j'avais vite dérivé dans un peu la conversation entre copines militantes qui pensent un peu la même chose. Et je me souviens qu'après, j'en avais parlé en séminaire et on m'avait dit que c'était pas grave, que c'était bien qu'on rigole ensemble, etc. Et du coup, petit à petit, je me suis dit qu'en fait, c'était plus une force qu'autre chose dans les entretiens d'être assez proche de ces personnes-là. Enfin, c'était pas non plus des amis proches, mais on se savait... qu'on avait les mêmes opinions et les mêmes rapports à ces questions-là. Et du coup, ça faisait que je pense qu'il y avait un peu cette idée de partage d'expérience et ça marchait bien au final. Du coup, je me suis dit que c'était pas si grave s'il n'y avait pas une trop grosse distance. Mais peut-être que c'est un peu polémique de dire ça.
Non.
Bah, la connivence, ça permet de mettre les gens en confiance. Après, il y a peut-être aussi, mais j'en sais rien, mais des moments où la connivence, Elle empêche de dire des choses, ou c'est probablement une posture qui a sa limite aussi, mais bon.
Alors, en tant que journaliste, oui. Ouais. Au bout d'un moment, oui.
Mais en même temps, oui. Frontalement, tu t'opposes aux gens en leur disant « je ne pense pas comme vous
». Non, mais
c'est plutôt la neutralité qu'il faut.
Le côté confiance mutuelle, moi je trouve que c'est très important. De la part de la personne qui interviewe ou qui enquête, l'honnêteté intellectuelle, le plus possible, et une grande attention à ce qui se dit. Parce que justement, on vient interviewer quelqu'un sur un thème, et voilà que tout d'un coup, la personne dérive. Alors là, il y a deux écoles, enfin il y en a plus, mais il y en a au moins deux grandes. C'est les gens, les journalistes ou les enquêteurs, qui ne veulent pas entendre parce que ça dévide leur sujet, et ceux qui se disent, soit tant mieux, c'est quelque chose que j'avais pas prévu, soit bon sang, qu'est-ce que je vais en faire, mais de toute façon, c'est intéressant. Enfin, voilà. C'est un jeu intellectuel et mental et professionnel qui est compliqué. Mais c'est vrai que si ça bloque dès le départ, rien ne sortira de cet entretien. Tout à fait. Donc vous avez vu ça comme une richesse, un tremplin, une...
Oui, plutôt. Et sur ce que vous dites, c'est drôle parce que mon dernier entretien, justement, c'était un entretien qui avait beaucoup, beaucoup dérivé. Et en même temps, au départ, elle m'avait dit, du coup, elle m'avait demandé des informations sur moi et tout, parce qu'elle disait, moi, je vais te raconter ma vie, donc j'aimerais bien savoir un peu la tienne. Et ça m'a fait bizarre, mais en même temps, c'est vrai que c'était plus agréable pour moi aussi, que ce soit sur un pied d'égalité là-dessus. Et ça avait beaucoup dérivé, et c'est elle-même qui m'avait dit... quand justement on parlait des questions de rapport de genre, etc., de la question de l'écoute active, qu'elle disait il y avait moins du coup chez les hommes pendant les réunions, etc. Et disait comme là par exemple, tu hoches la tête quand je parle, etc. Et du coup c'était un peu ce truc de continuer à le faire même quand elle dérivait. Mais c'était super intéressant même si j'ai pas tout utilisé quoi.
Pareil, vous preniez des notes, vous aviez quelque chose pour enregistrer au moment des entretiens et tout.
Oui, tout comme Alice, je prenais des petites notes et j'enregistrais, mais au final, mes notes, je les ai pas trop relues. Enfin, j'ai un peu oublié qu'elles existaient, mais elles me servaient sur le moment pour rebondir sur des choses qu'elles avaient dites.
Et puis ça participe aussi de ce que vous appelez joliment l'écoute active, c'est-à-dire c'est une façon de dire à la personne ce que tu dis a de la valeur, je prends des notes, etc. Donc ça solennise un petit peu l'interaction et ça permet peut-être d'éviter que ça parte un peu dans la... Ça dérive trop, là, pour le coup. Il y a un côté un petit peu prof, à prendre des notes.
Et donc, quand vous êtes revenu avec tous ces matériaux très riches et tout, comment vous avez envisagé l'écriture ? Comment on s'embarque dans 60 pages de texte ?
C'est pas évident. Enfin, c'était vraiment la première fois, je pense, qu'on avait un aussi gros travail à faire et surtout qu'on était libre en fait, du début un peu à la fin. Donc vraiment de choisir le plan, la problématique, l'orientation du mémoire. Et aussi, moi je pense, le plus compliqué, ça a été de me servir des entretiens. En fait, pareil, on n'avait jamais eu des entretiens et ensuite les insérer dans une réflexion tout en les reliant à des apports théoriques. Je pense que c'était un gros travail. Même si au final, je pense que ça... Enfin, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé à nourrir le mémoire et d'avoir une réflexion assez claire, de partir en fait de ce que ces mères me disaient, de l'analyser et ensuite fournir une réflexion. Mais c'est vrai que ça prend du temps d'écrire autant de pages et après on a beaucoup travaillé ensemble avec Emma et ça a beaucoup aidé, je pense, à... En fait, on se posait tout le temps des questions, voir comment l'autre en fait avançait. Je pense que c'était assez rassurant de voir qu'on n'allait pas un peu n'importe où et... en fait aussi, je veux dire, Monsieur Lebart ou Madame Agèche qui nous ont encadrés aussi dès qu'on avait des questions... que ce soit très simple ou plus ouverte, était là. Donc, ouais.
C'était des questions, par exemple, sur le plan. Est-ce qu'on est en train de se planter ? Est-ce qu'on est dans une impasse ? Est-ce qu'il y a eu des moments dans l'écriture où vous vous êtes dit, bon sang, j'en suis où ? Je fais quoi là ?
Oui.
Oui, je veux bien croire sur 60 pages, oui.
Surtout, du coup, on s'était mis d'accord sur un plan au départ et on a toutes les deux eu ce moment où... Enfin, je sais plus à quelle partie, mais c'était des moments où on se disait, mais en fait, ça n'a pas de sens. Enfin, j'ai fait ces parties-là, mais ça ne devrait pas du tout être comme ça. Et du coup, un peu crise de panique. Et en général, on en parlait avec l'autre et après, ça allait mieux. Et on se disait, non, il faut juste changer le plan parce que tu te rends compte en écrivant qu'il marchait moins bien à ce moment-là, mais... C'est pas grave, et puis c'est un peu tout le truc de réussir à se faire confiance et de se dire que c'est normal que ça change au fil de l'écriture aussi. Ce qui était bizarre de se dire au début, j'étais vraiment en mode faut suivre mon plan, mais en fait pas tant que ça. Et j'ai changé beaucoup de titres aussi en écrivant.
Et tout ça, Christian, il faut le rappeler dans un calendrier quand même très contraint, puisque fallait que le mémoire soit rendu tel jour à telle heure. Il y a des cours, il y a des examens à préparer, etc. Donc ça, voilà, ça doit être dit également.
Combien de temps, justement, pendant combien de temps vous avez travaillé?
Là
vous parlez devant votre enseignant, monsieur Lebar.
Je crois qu'on s'est mis d'accord sur le plan genre fin février, début mars. Et moi, je crois que j'avais pris une petite pause avant de commencer l'écriture d'une semaine et demie ou un truc comme ça. Mais du coup, au final, l'écriture, elle s'est faite en 3 semaines, je pense. Donc, c'était un peu la course.
Alice, 3 semaines aussi ou un peu plus?
Ouais, non, on avait à peu près le même rythme. Mais du coup, oui, je pense 3 semaines. Et je pense qu'il aurait manqué quelques jours, moi, personnellement, de relecture. Et c'est vrai que oui, on avait un calendrier assez restreint. Mais je pense que... Enfin, c'est assez stressant de se mettre, je trouve, à écrire un aussi gros mémoire et de par où commencer. Est-ce qu'on commence par l'introduction? Est-ce qu'on commence par le corps du texte? Et un peu faire l'autruche au début, de reculer ce moment où il faut écrire celle de la première phrase.
Et la seconde aussi.
Oui.
Et la troisième.
Oui.
Mais, faut commencer par la deuxième, toujours.
Et puis aussi, il y avait aussi cette idée de se faire relire, donc on avait beaucoup d'amis.
On y reviendra sur la relecture, ouais. On y reviendra. Là, on est vraiment dans... Moi, ça m'intéresse beaucoup, les différentes phases.
C'était drôle parce que typiquement, l'intro, du coup, on l'a faite à la fin. Et c'était peut-être un peu une erreur. Enfin, moi, du coup, je m'étais dit que c'était logique, enfin, ce qu'on nous avait dit un peu aussi en séminaire, que c'était un choix à faire de se dire c'est plus facile de dire ce qu'on voulait dire une fois qu'on l'a dit. Donc oui, effectivement, mais en même temps, du coup, j'avais pas réalisé que l'intro, c'était quand même genre 6-7 pages et qu'il fallait beaucoup relire aussi pour réussir à définir les termes. Et du coup, c'était un peu un moment de panique à 4 jours du rendu de devoir écrire toute l'introduction. Mais ça s'est fait, mais du coup... À refaire, peut-être, je travaillerai ça un peu avant aussi, quoi.
On y reviendra sur le côté conclusion et autocritique et perspective et tout. Mais pendant cette période, est-ce que vous étiez très disponible ou est-ce que vous aviez d'autres engagements ou un job à assurer pour financer vos études?
Du coup, on a rendu notre mémoire le 7 avril. Et du coup, on va dire que c'était vraiment le mois de mars où on a commencé à rentrer dans la rédaction. Et c'est vrai que c'était un moment très intense niveau mouvement social. Et que c'était très compliqué à la fois de maintenir un engagement, d'aller manifester, tout en essayant de rester concentré et d'écrire un mémoire. Ce qui paraissait parfois un petit peu... très compliqué de se mettre dans une bulle alors qu'il se passe tout ça à l'extérieur. Et qu'en plus, on est tous les deux engagés, que ce soit avec nous toutes, même de manière générale. Et du coup, en plus de ce contexte-là, on avait aussi... 2 modules projets au sein de Sciences Po, donc c'est des projets qu'on a tout au long de l'année. Donc moi personnellement, j'ai travaillé avec le Musée de Bretagne sur un jeu de rôle et en fait, les représentations avaient lieu en mars, ce qui fait que tout arrivait en même temps, enfin la dernière semaine de mars. Ce qui fait que c'était très compliqué de à la fois faire ce projet-là, écrire, consigner de militer, enfin il y avait beaucoup de choses et personnellement je pense que ça nous a un peu ralenti et empêché de s'y mettre complètement.
Emma ?
Oui, tout pareil, il y avait le module projet, moi, c'est tombé en même temps qu'Alice parce que c'était le Musée de Bretagne, c'était dans ce cadre. Moi, du coup, c'était l'organisation du festival Nos Futurs au Champ Libre qui, du coup, durait 5 jours. Pareil, la dernière semaine de mars, donc au moment pile en plein dans l'écriture. Et les mouvements sociaux, évidemment, qui étaient très. Il y avait un peu cette dimension qui était étrange de se dire que les obligations scolaires étaient censées passer avant le militantisme alors que. Bon, je sais pas, on avait l'impression que c'était la révolution dehors. En plus, on habite boulevard de la Tour d'Auvergne. Du coup, les manifs, elles passent tout le temps devant. Et la seule fois où on s'est dit non, on n'y va pas, faut qu'on écrive, on y est quand même allé parce que ça passait en bas de chez nous, quoi. Du coup, c'était un peu un jeu compliqué d'équilibre. Et moi, je faisais un 12 heures semaine en plus, mais du coup, je l'avais arrêté juste pendant 3 semaines, le temps de l'écriture. Enfin, il m'avait accordé ça.
De contrat de quoi?
Je travaillais dans une sandwicherie, dans la restauration.
D'accord.
Du coup, voilà, ça prenait... c'était du 13h-19h, 2 fois par semaine, quoi. Donc ça faisait quand même 2 après-midi qui étaient... Enfin, ça m'a surtout gênée avant le début de l'écriture, deuxième semestre.
On fait une pause musicale. Le groupe Del the Funky Homo Sapiens... qui va nous interpréter Student of Game.
Young Diesel, you know how I do. Yep. For you, yo. I've been a student of the game ever since Africa Bambaataa. Then I grew to an international globetrotter. Throw hotter verses at the people ready to catch one. That's from the heart, from the start, coming hard. Blunt is our chance to find something new to flip within the rhyme. So never mind, get in line, first come, first serve. You deserve the best, it's the purest that you're gonna get. Wanna bet? Don't bet against me or you're leaving with your pockets empty. And that's too bad, told you not to do that. Who bad? I'ma bring Michael back from the grave, just like he did in Thriller. I just need the feeling, I memorize his moves that molded me into a super rapper and a cold MC. Everybody knows it's me, they know I represent for them. Fuck the empire, I could send fire to scorch their fortress. I did a lot of shit, I'm finna do more. I scored a video game, I've been on world tours. My experience with music is vast. Plus I stay futuristic, I don't live in the past. This little shit right here, it ain't even a tenth of what I'm capable of. You wanna peep, you gotta buy the shit. This is for the fans, this is for the foes. This is for them bitches who be looking down they nose. Too bougie, they wanna be in movies. They go in Hollywood, if they could, they would do me. But they can't, my rank is too high. Up with the satellites at a height that you can't see without a telescope. So you better let it go. Sir Diesel, the whereabouts, well you never know. But what I'm doing you can guess, cause I never rest. Just like Zappa, music be the factor. Real, not an actor. No, I'm not a bachelor. Yes, I got a girl and she called me the master. I'm a Duke of Hazzard, I'm producing magic. Bring something to the table if you wanna be established. Yes, I know I have it. Attraction like a magnet, I leave you fast fascinated with the world that I inhabit and put it all in paragraphs and share it with the planet.
Student of the Game par Del the Funky Homo Sapiens sur Canal B. Vous écoutez Chercheur en Ville, soit branché sur le 94.0 ou peut-être en ligne sur canalb.fr, où vous pouvez d'ailleurs retrouver tous les podcasts de cette émission disponibles à la réécoute. Aujourd'hui, dans notre émission consacrée à la recherche universitaire, on remonte le fleuve de la recherche à sa source avec deux apprenties chercheuses qui viennent de boucler leur mémoire sur un sujet lié au féminisme. La discussion se poursuit tout de suite, toujours animé par Colette David et Christian Lebar.
Emma et Alice, on a bien avancé dans votre travail de recherche. Pourquoi le choix du sujet ? L'écriture, une fois que c'est sans doute ce que vous disiez, votre plus important travail de recherche, donc ce mémoire de quatrième année, 80 pages en tout. Est-ce que votre texte, une fois qu'il a été écrit, dans la joie et l'enthousiasme, et dans le doute aussi, et dans l'angoisse, on a compris, est-ce qu'il a été relu et par qui ?
Oui, il a été relu, du coup, moi, je pense à peu près 3-4 personnes qui ont accepté. En fait, c'était plus...
C'était qui les personnes ?
Du coup, il y avait ma copine qui a beaucoup relu, qui m'a beaucoup aidée, notre coloc, Quentin, Emma aussi, qui m'a beaucoup, au-delà de relire, beaucoup de conseils aussi au niveau de l'écriture, on s'est beaucoup aidés, je pense, mutuellement. Et une autre amie à moi, Canel aussi, qui a relu. Et en fait, moi, j'ai plutôt donné des paragraphes par paragraphe, en fait, pour pas donner tout de suite.
Ah oui, tout le monde n'a pas tout relu.
C'est ça, exactement. Il n'y a pas eu une grande relecture de tout le mémoire en entier, parce que c'est quand même assez long et qu'ils avaient aussi leurs obligations, ils n'avaient pas forcément le temps. Donc c'était plus donner un chapitre ou une partie du chapitre à relire. Et du coup, ils sont un petit peu partagés la tâche et je donnais un petit peu au fur et à mesure, c'est-à-dire j'avais deux chapitres dans mon mémoire, donc une fois que le premier chapitre était fait, je pouvais le donner à la relecture et moi commencer l'écriture du deuxième chapitre.
Vous faisiez ça façon feuilleton et vos relecteurs et relectrices disaient alors la suite.
Oui, bah en fait, il y avait aussi, au-delà de relire, on va dire, toute cette partie un peu grammaticale, relire les formes de phrases, aussi mettez souvent des commentaires en fait en disant ah ça c'est bien mis, ça c'est très intéressant, peut-être que tu pourrais plus s'exploiter, plus développer. Donc c'est à la fois une relecture active, donc vraiment donner des conseils et tout en relisant et corrigeant s'il y avait des fautes. Voilà.
Vous avez tenu compte des avis, des suggestions, voire des critiques ?
Oui, complètement. Souvent, je me rendais compte que je pouvais avoir écrit d'un coup, et en fait, dans ma tête, c'était clair. Et au final, par écrit, quand on lit surtout qu'un paragraphe, on ne comprenait pas forcément l'idée. Et de reformuler certaines choses, de plus développer, je pense que ça m'a beaucoup aidé à prendre du recul et à revenir sur mes propos pour les expliciter.
Ça, c'était donc le mémoire sur le regret maternel. Emma Baudouin, sur le militantisme, les femmes et le militantisme d'extrême gauche, pareil, votre mémoire a été relue ?
Oui, moi, il a été relu par 11 personnes en tout. Mais pareil, vraiment, chacun sa partie. Pour le coup, mes parents ont lu l'intro. Quentin, du coup, notre coloc, il a lu une partie. Je ne vais pas citer tous les noms, mais du coup... j'ai envoyé un message sur le groupe avec tous les copains-copines. Et je disais qu'ils veulent relire une petite partie de mon mémoire. Et après, ils choisissaient leur partie préférée. et voilà. Et après, je tenais compte. Enfin, surtout, c'était une relecture active. Et ce qui était bien aussi, moi, c'était quand j'avais relu, c'était vraiment de voir des fois, du coup, ils disaient « Cette phrase, elle est bizarre. Tu devrais dire ça à la place. » Et en général, c'est des phrases où je m'étais dit « Mais je ne sais pas comment le formuler. » Et en relisant, ils avaient mis la formulation parfaite. Et du coup, ils disaient « Bon, super. » C'est pratique. Du coup, heureusement qu'il y a eu ça.
Là, on Christian arrive, Lebar.
C'est vraiment intéressant. On arrive à des formes de mutualisation quand même de plus en plus riches. Si on réfléchit avec l'expérience d'une vingtaine d'années de ce séminaire, là, les générations qui vous ont précédé, on trouvait un relecteur, effectivement. Alors, c'est souvent les parents, mais là, il y a des mécanismes de mutualisation, alors qu'on retrouve complètement chez les doctorants, alors que là encore, pour ma génération, ça n'existait pas du tout. Chacun faisait sa thèse, non pas dans son coin. On échangeait beaucoup, mais on n'échangeait pas sur les textes. Et là, maintenant, il y a ces formes de relecture. Juste une question. Vous n'avez pas été relu par les personnes dont vous parlez dans le mémoire ?
Non, du tout.
Non plus.
Donc, et du coup, la mutualisation, c'est drôle. Maintenant, il y a l'outil, rien que le Google Doc, du coup... on mettait juste notre mémoire là-dessus et après les gens se mettent en mode commentaire et ils peuvent dire ça je mettrais ça à la place ou en suggestion enlève cette phrase et mets ça à la place, du coup c'est super
comme ça,
instinctif, ouais.
Ce qui pose quand même un problème à partir du moment où vous écrivez dans un genre particulier qui est les sciences sociales, qui n'est pas un genre quand même très partagé, avec ses codes très particuliers. Le fait de faire appel à des gens qui sont extérieurs au monde des sciences sociales et qui peut-être même sont plutôt dans le monde militant, est-ce qu'il n'y a pas des risques ? Alors, ça dépend de quoi on parle. Si on parle du parti passé, il n'y a pas de souci, mais si on parle de l'argumentation, des choses comme ça.
Moi, je sais que j'ai un peu parfois ressenti ça, ou par exemple il y avait des commentaires, on va dire, je sais pas, c'était plus sur la structure ou des termes que j'avais utilisés qui pour moi étaient importants parce que je vais dire les enquêter, je sais plus, mais et qui avaient été corrigés. Je m'étais dit non, il faut vraiment que j'utilise ces termes là parce que ça reste un travail sociologique et je pense qu'en vrai on a le recul pour voir du coup ce qu'on doit écrire et plus des reformulations pour des phrases plus jolies, on va dire, ou mieux dites. Mais
oui, apprendre et à laisser dans les commentaires.
Oui, c'est ça, voilà.
Je rebondis sur la question de Christian. Vos interlocutrices, les enquêtées, vous ne leur avez pas fait relire le texte avant de le donner à vos enseignants et de soutenir votre mémoire. Mais après, est-ce que vous leur avez donné à lire une fois que tout le travail était terminé et validé par vos enseignants ?
Moi, pour l'instant, non. Mais... en fait, il y a à la fois ce truc de j'ai pas noté qui m'avait dit je voudrais le relire quand t'auras fini. Du coup, je sais pas si je l'envoie à toutes dans le doute ou à personne.
Vous avez peur ?
J'ai très peur. C'est pour ça en fait. Comme en plus, c'est vraiment des militantes féministes et c'est des femmes que j'ai tellement admirées dans les entretiens et j'ai essayé de leur donner la parole, mais j'ai peur que ce soit mal pris ou qu'il y ait des choses que j'ai mal dites. En plus, je trouvais que. En 60 pages, il y avait beaucoup de choses que j'ai pas eu le temps de dire et de nuances que je voudrais apporter et que j'ai pas pu. Mais je sais qu'elles comprendraient ça aussi parce que elles prônent aussi c'est des femmes qui prônent le droit à l'erreur et le fait de savoir prendre le temps, etc. Du coup, je sais que ça irait au fond. Mais du coup, je me disais non, j'attends la soutenance. Et en fait, c'était il y a 13 jours, du coup, j'aurais pu l'envoyer déjà. Mais maintenant, j'attends de relire pour enlever les fautes et après, je leur enverrai. Peut-être.
Et vous, Alice ?
Moi, du coup, sur les 5 mères avec qui je me suis entretenue, les 5 m'ont vraiment montré leur désir de lire le mémoire. C'est vrai que pareil qu'Emma, j'appréhendais beaucoup. Et en fait, j'ai créé un lien surtout avec la première mère avec qui j'ai eu l'entretien dans un café à Rennes. À qui du coup j'ai transmis le mémoire et qui l'a lu. Et pareil, j'appréhendais beaucoup son retour et au final, ça s'est très bien passé. Elle a beaucoup aimé en tout cas le mémoire et m'a fait des retours très positifs. Et on s'est revus il n'y a pas longtemps pour prendre un café pour en parler aussi. Parce qu'elle devait venir à la soutenance, mais elle n'a pas pu venir. Et du coup, juste pour en parler, je me suis rendu compte qu'avoir un retour, c'était aussi très intéressant parce que même elle m'a dit voilà, ça m'a fait beaucoup de bien de lire, de témoignages, de comprendre ce que les autres mères vivaient. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas encore fait le pas d'envoyer aux autres enquêter, mais je pense que c'est une bonne idée ou en tout cas, ça s'est très bien passé pour le moment.
Christian Lebas.
Oui, alors moi je trouve que c'est très très bien de faire ça, de leur envoyer et puis d'avoir leur retour. On voit bien aussi dans vos témoignages la part d'attachement qu'il y a à ces personnes, la reconnaissance que vous avez à leur égard, car après tout vous n'auriez pas pu faire ça sans elles. Et en même temps, le mémoire, et on rejoint ici la question initiale de la tension entre le regard des sciences sociales et puis le regard militant, le mémoire n'est pas que leur donner la parole et leur permettre de s'exprimer. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez eu le sentiment d'écrire contre elle et peut-être contre cette part de vous-même qui est la part militante au nom de quelque chose qui est la sociologie, les sciences sociales qui ne se résume pas à l'art de consigner le point de vue des gens, mais qui est aussi l'art de l'interroger, voire de l'interroger de façon critique. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez eu le sentiment d'écrire des choses dont vous vous êtes dit « ça ne plaira peut-être pas à ces femmes à qui, par ailleurs, je dois tant » ou est-ce que vous avez fait l'économie de ça ?
Emma ?
Oui. Je sais que je l'ai ressenti, mais j'essaie de trouver un exemple précis. Mais moi, il y a un témoignage où c'est une fille qui dit que dans tel collectif, ils sont très bien les rapports de genre. Mais bon, il y a des hommes qui coupent la parole. Mais sinon, c'est très bien et tout. Et du coup, là, j'ai l'impression de lui mettre un tacle, mais c'est pas le cas. Mais juste dire, oui, la domination masculine, elle est tellement là que même couper la parole, ça paraît comme les rapports de genre, ils vont bien malgré tout. Et là, je me suis dit, faut le dire quand même. Mais oui, des fois, j'avais l'impression d'être un peu.
C'est au nom d'une conception militante différente de celle de la. C'est pas au nom des sciences sociales, vous voyez ? C'est une espèce de surenchère militante, là, votre point de vue.
Non, je crois pas.
Non ?
Je sais pas.
Le fait de s'opposer à cette personne en disant couper la parole n'est pas aussi insignifiant que vous semblez le supposer, voilà, c'est un point de vue militant différent de celui de cette personne. C'est de dire il y a de la gravité dans le fait de couper la parole. C'est peut-être pas au nom des sciences sociales, voyez.
Après, ça rentrait dans le cadre de ce que j'avais lu sur comment on prend la domination dans une conversation, cette idée de domination conversationnelle. Du coup, c'est même moi pendant l'entretien, je dis ça va, les hommes qui coupent la parole, on a l'habitude. Et après, en lisant toute cette chose sur comment la domination, elle prend sens dans les conversations, là, je me suis dit, non, même ça, c'est pas OK. Il y avait beaucoup aussi sur la non-coopération et le fait de pas vraiment être à l'écoute. Et ça aussi, ça m'a étonnée, du coup.
Mais donc, vous l'avez quand même écrit.
Oui.
Entre guillemets, contre, OK. Mais il y a d'autres choses que vous n'avez pas, pas repris dans votre mémoire.
Des choix à faire un peu partout, quoi.
Alice, sur le regret maternel.
Ouais, moi je pense que... Alors je sais pas si c'est un choix que j'ai fait ou si juste en fait mon sujet ne s'est prêté pas, mais j'ai l'impression d'avoir écrit sans forcément aller à l'encontre, par rapport à ce que vous disiez. J'ai l'impression d'avoir juste fait un constat et d'avoir en fait suivi tout ce qu'elles m'ont dit et d'avoir essayé de dérouler un peu ce fil-là, c'est-à-dire faire vraiment une première partie sur... comment les injonctions sont encore très fortes vis-à-vis de la maternité, comment elles se retrouvent stigmatisées, marginalisées, et ensuite plutôt proposer des solutions dans une seconde partie. Et du coup, j'ai pas eu ce truc de vraiment me dire... il y avait cette part de... J'avais envie qu'elles lisent mon mémoire après et que j'aurais pu certaines fois me dire « mince, elles vont peut-être pas comprendre pourquoi j'ai écrit ça, parce que ça va à l'encontre... » parce que c'est une analyse sociologique, mais en tout cas, je l'ai pas ressenti.
C'est jamais facile en plus de se rendre compte de cette chose-là. J'imagine quand on est l'enquêté et qu'on lit des choses sur c'est pas la façon dont mon comportement représente de toute façon une socialisation, etc. Et enfin, je me dis, si j'avais interrogé des hommes, ça aurait été catastrophique parce que enfin, j'aurais pas osé leur envoyer. Ou alors si, parce qu'ils auraient sûrement été très à même sur ces sujets, ils les connaissaient. Mais...
Non, mais sans contredire les acteurs, mais dire par exemple que, je sais pas, quand on travaille dans une perspective féministe d'élucidation de la domination masculine, dire que, par exemple, les femmes qui ont un fort capital culturel, elles sont pas que dominées, et voilà, c'est aussi relativiser les choses, donner à voir d'autres variables que la mécanique homme-femme, etc. Rien que ça, déjà, ça peut troubler un peu le discours militant, vous voyez.
Alice, vous vouliez...
Oui, c'est juste, en fait, aussi, je pense que je me suis rendu compte que les 5 mères avec qui j'avais eu un entretien, c'est des femmes qui sont déjà très féministes et qui sont au courant de tout ce que tu disais, Emma, sur la socialisation, sur le fait que, en fait, quand on fait un choix, c'est pas vraiment un choix, parce qu'il y a la société qui nous impose de faire tout ça. Et du coup, en fait, je pense qu'elles avaient déjà une conscience très forte et aussi de toutes ces choses de capital culturel et qu'elles sont dans une position où, oui, elles ont accès à toutes ces ressources, d'essayer de comprendre pourquoi ce regret. Et j'en ai parlé dans mon mémoire, mais je pense que du coup, le public auquel je me suis adressée était déjà averti de tout ça. Quoi.
C'est vrai pour vous aussi. C'est des femmes qui sont nourries de sciences sociales, en fait.
Oui, voilà, je pense que surtout, du coup, quand je lisais des choses sur le militantisme féministe, ils disaient que c'était justement un type de militantisme qui avait beaucoup de références théoriques, etc. Du coup, les femmes que j'ai interrogées, en fait, c'est elles qui m'ont dit « il faut lire Christine Delphi, il faut lire ça ». Donc, voilà.
Dans ce que vous dites les unes et l'un et les autres, moi je connais mieux l'approche journalistique. Quand on rencontre quelqu'un, après quand on écrit, c'est pas pour lui faire plaisir. Ça c'est clair et net, autrement on est fichu. Enfin, en même temps d'être honnête, de dire ce qui s'est passé, de retranscrire les termes, le contexte, etc. Mais on n'est pas là pour faire plaisir, ça c'est... Autrement, on change de métier. Voilà. Et donc, il y a des moments où on écrit entre guillemets contre. On le sait. Mais il faut être capable après. Et bien sûr, faut. Bon, journaliste, l'article, il sera public. C'est éminemment public. Donc, on est habitué à ce jeu de j'y vais ou j'y vais pas devant l'ordi ou avant devant la feuille blanche. Et aussi, à la fois l'écriture et aussi l'entretien préalable. Soit et l'interviewer, on l'a vu en termes de militants, d'engagement, etc. Mais aussi, est-ce qu'il y a des moments où ce que les unes et les autres vous ont dit, ça vous a remué, ça vous a choqué, ça vous a déstabilisé ?
Moi, je pense que oui. Enfin, du coup, parlant du regret maternel, il y a eu des moments même très durs de récits où voilà, c'est quand même un sujet qui est très difficile à entendre parce que voilà, quand on fait le choix d'avoir des enfants, c'est un choix qui est irréductible et forcément le quotidien, les émotions, les ressentis de ces mères sont parfois terribles et du coup d'entendre certaines choses sans avoir vécu en plus l'expérience. Mais je pense que même ça m'a donné une vision de la maternité que j'aurais pas forcément eue. Et d'un point de vue personnel, en tout cas aujourd'hui, ça m'a permis d'avoir des réflexions encore plus grandes et je pense que même pendant l'entretien, il y avait parfois beaucoup d'émotions, donc c'est pas forcément facile. Et on apprend beaucoup, quoi, de ces entretiens.
J'imagine. Et vous, Emma ?
Je pense qu'il y a un peu cette dimension aussi dans le militantisme féministe, et c'est aussi dans les entretiens qu'elle disait qu'on est à la fois très optimiste parce que le monde va aller mieux, parce qu'on milite pour ça, et à la fois très pessimiste parce que plus on creuse et plus les rapports de domination, ils sont partout. Et après, moi, j'ai pas été dans les questions de violence physique, etc., tant que ça. Du coup, ça a été, et j'avais déjà pas mal lu sur comment ça se passait dans ces cas-là, dans les collectifs, donc ça m'a moins choquée quand elle m'en parlait. Mais c'était à la fois, bon, ça m'étonne, et en même temps, ça m'étonne pas, quoi. Voilà.
Quand on part sur deux sujets aussi complexes que les thèmes que vous avez choisis, on part avec un cadre, avec un fil conducteur, avec une ou des pistes. Et il y a le travail de recherche, et il y a les entretiens, et il y a l'écriture, comme vous l'avez très bien dit. Qu'est-ce que vous avez découvert entre le début du travail et la fin, là, aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous avez découvert ?
Que vous n'aviez pas anticipé.
Voilà.
Malgré la préconnaissance que vous aviez du sujet.
Emma Baudouin.
Qu'est-ce que j'ai découvert? Je pense que, bah, du coup, ce que je disais sur l'ampleur juste de la domination masculine, enfin, je me souviens, c'est quand on en parlait en séminaire et on se posait la question du plan, et du coup, j'avais cette partie sur les violences physiques, donc les violences sexistes et sexuelles physiques, et ces autres parties sur la répartition du travail, la monopolisation de la parole, etc. Et que, enfin, je sais, je crois que c'était Madame Agege qui m'avait dit, mais ça aussi, c'est des violences et tout. Et je dis, ah oui, c'est vrai. Et du coup, après, j'ai un peu tout repensé dans ce cadre-là. Et pourtant, c'est du coup, dans une socialisation féministe, on a déjà ces notions-là. Mais là, c'était vraiment, fallait creuser très loin. Et je pense que c'est ça, l'ampleur des rapports de domination et comment ils s'imbriquent un peu partout, même quand on essaie de faire mieux. En fait, il y a toujours un truc qui revient. Et aussi, je pensais pas que j'allais avoir une partie aussi grosse sur les résistances féministes et les façons du coup, de faire militantisme entre femmes et mieux. Et du coup, c'était trop génial d'avoir cette partie-là aussi à laquelle je m'attendais pas vraiment.
Alice de Rosa ?
Oui, moi je pense que c'est aussi surtout ce que j'ai pu lire, où j'ai appris énormément. Enfin, pareil, comme j'ai 22 ans, on va dire, la maternité, c'est pas, j'avais pas lu beaucoup avant sur le sujet. Et j'ai énormément appris, en fait, et de se rendre compte aussi, finalement, un peu comme Emma, de tous ces rapports de genre, de comment encore aujourd'hui, on est, voilà, en tant que femme, socialisée à devenir mère. Et qu'en fait, c'est pas du tout un choix qui est fait pour tout le monde. Et en fait, vraiment, de réaliser tout ça, je pense que ça m'a beaucoup éveillée. Et du coup, je pense que c'est sur le point où j'ai le plus appris et où ça a fait vraiment évoluer aussi peut-être ma réflexion de vouloir faire vraiment toute cette deuxième partie où comment en fait ces mères font face à ces injonctions et comment trouver des solutions et comment juste repenser à la maternité en général. Ce qui fait que notamment mon titre a changé. Normalement, c'était plus sur le regret maternel, comment dire l'indicible. Et qu'en fait, à la fin, je me suis dit, mais en fait, non, j'ai vraiment envie de me dire que voilà, il faut faire un mémoire plus global et une réflexion plus grande sur la maternité. Quoi.
Vous êtes en quatrième année Sciences Po à Rennes. Alors, comment vous voyez votre avenir, vos envies, et sur le plan personnel et sur le plan professionnel? Est-ce que vous allez continuer la recherche? Comment vous voyez dans les mois et années à venir? Qui commence?
Alice. C'est un peu une grande question. Enfin, on est un peu toutes les deux dans la même situation. C'est-à-dire que moi, personnellement, je ne sais pas si la recherche s'est faite pour moi. On va dire que cette année, j'ai appris beaucoup de choses. Et c'est vrai que rien que le mémoire, j'ai adoré l'écrire. Mais je pense plus parce que c'était un thème qui me parlait et qui m'a passionnée. Et j'ai appris énormément. Mais on va dire que les aspects plus techniques, méthodologiques de la recherche, je ne suis pas sûre de vouloir continuer. Du coup, c'est pour ça que l'année prochaine, j'ai décidé de faire une année de césure sûrement et essayer d'explorer d'autres choses, faire des stages dans d'autres domaines, pourquoi pas même faire un stage dans la recherche pour, au-delà des cours, en fait, voir si c'est vraiment ce milieu-là qui m'intéresse, pour ensuite, du coup, reprendre, pourquoi pas, deuxième année de master dans 2 ans. Mais je pense que j'ai besoin d'une pause pour vraiment me poser et essayer de vraiment trouver ma voie, même si c'est très compliqué.
C'est-à-dire qu'entre la démarche des sciences sociales et l'objet sur lequel vous avez travaillé, c'est la passion pour l'objet qui est première, et la démarche, vous l'avez appréciée parce qu'elle vous permettait de penser cet objet-là.
Je pense, oui. C'est pour ça, par exemple, l'exercice des entretiens, j'ai beaucoup aimé, même si bon, la retranscription derrière, c'est quand même sacré tâche, pas forcément très drôle à faire, mais je pense que c'est vraiment parce que oui, c'était un sujet qui m'animait beaucoup, et même les études de genre, je pense en général, vraiment... Je trouve ça très passionnant, mais j'arrive pas vraiment à me dire si plus tard je pourrais travailler dans la recherche et me retrouver à travailler sur des sujets qui me parlent pas forcément, mais quand même y trouver du sens. Et du coup, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il faut que je fasse des stages ou que je teste d'autres choses pour vraiment être sûre que c'est là-dedans que j'envisage de travailler après. Quoi.
Emma Baudouin ?
Ouais, tout pareil. Hein.
Tout pareil ?
On a un peu des parcours similaires, mais... Oui, c'est pareil dans le sens, c'était pas vraiment par l'amour de la méthodologie, de la recherche. J'ai adoré l'écrire, etc., mais c'était très angoissant. Et je sais que c'est aussi parce que j'avais plein de choses à côté, mais c'était 3 dernières semaines où à la fois j'étais vraiment amoureuse de mon objet et j'adorais l'écrire, et même les moments d'écriture, en fait, c'était chouette. et en même temps c'était fatigant et un peu éreintant. Du coup, je sais pas trop si... Et moi, c'était un peu cette dimension aussi militante que j'aimais bien, et je sais pas si vraiment m'imaginer une vie dans la recherche, ce sera assez dans la marge ou dans le militantisme un peu plus radical que ce que j'aimerais faire. Du coup, pareil, je fais une année de césure pour tester d'autres choses et peut-être y revenir après.
Écoutez, on vous souhaite plein de choses, et d'abord, merci infiniment d'avoir participé à cette émission et de nous avoir dit comment vous avez travaillé sur ce mémoire. Merci Emma Baudouin, merci Alice De Rosa, merci Christian Lebar, merci notre réalisatrice Elvire Moreau, et à bientôt pour une prochaine émission de Chercheurs en Ville sur Canal B.